Bonjour et bienvenue, chers auditeurs et auditrices d'Esprit Occitanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'émission Vers de Terre, l'émission pour les auditeurs et auditrices Vers d'Orage. Cette émission vous est proposée par les étudiants du Master de Sociologie en Politique Environnementale et Pratiques Sociales, autrement dit le Master PEPS. Et aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder est celui du mouvement écoféministe. Alors, pour vous parler de ça, je ne suis évidemment pas toute seule. Je suis accompagnée d'une petite équipe dont je vais faire un petit tour de table pour que tout le monde puisse se présenter. Peut-être en commençant par, avec Louise à ma droite. Bonjour Louise.
Bonjour Martha, bonjour tout le monde et merci beaucoup de m'avoir invitée.
Avec plaisir Louise, nous sommes aussi en présence de Solène, bonjour.
Bonjour Martha et bonjour aux auditrices et aux auditeurs.
Et pour finir, je vous présente Jules. Bonjour Jules.
Bonjour Martha, merci pour votre invitation.
Aujourd'hui, on va donc parler d'écoféminisme, un mouvement qui a commencé dans les années 70 dans un contexte de mouvement antinucléaire pacifique au Royaume-Uni. Il faut savoir qu'il existe une multitude de courants, d'ailleurs, je crois Solène et Louise, que vous vous positionnez différemment. Pouvez-vous m'expliquer ces positions ?
Oui, bien sûr. Alors, si je peux commencer, personnellement, je m'inscris plutôt dans un courant écoféministe, du coup, dit spiritualiste. Donc, en gros, c'est un courant qui revendique certaines croyances, qui mettent en avant le pouvoir des femmes et de la nature. Et nous, notre objectif, c'est de valoriser ces pouvoirs-là. Donc, pour la petite histoire, le mouvement spiritualiste, il s'est construit en opposition aux grandes religions, où souvent la femme est associée au péché. On connaît toutes et tous, par exemple, Ève qui a mangé la pomme du Jardin d'Éden dans la religion chrétienne.
Alors, moi, du coup, je ne m'inscris pas du tout dans le même courant que Solène. Je suis ce qu'on appelle une écoféministe matérialiste. Nous, on lutte, en fait, contre le patriarcat, mais également contre le capitalisme, puisqu'en fait, ils définissent les femmes comme une ressource, au même titre que la nature. Et du coup, les femmes et la nature vont être exploitées et donc dominées.
Et vous, Jules, il me semble que vous êtes engagé dans la lutte environnementale, non ?
Oui, c'est ça. Je milite en faveur de l'écologie depuis quelques années, mais je dois avouer que je ne connais pas trop, du coup, la question de l'écoféminisme.
Alors, Louise et Solène, pouvez-vous nous donner des exemples plus concrets de ce qu'est une écoféministe spiritualiste et une écoféministe matérialiste ?
Oui, alors si vous voulez un exemple plus concret, je me souviens par exemple d'un rituel qu'on avait fait, c'était pendant le grand blocus du Diablo Canyon. Alors c'était en 81, je pense que ça va pas parler à grand monde, mais il y avait plus de 2000 personnes qui s'étaient rassemblées contre la construction d'une centrale nucléaire. Et moi j'étais allée avec des amis et d'autres militantes, et bon, on s'était fait arrêter par la police qui nous avait détenus provisoirement dans un vieux gymnase, et donc c'est là pendant la nuit qu'on a fait un rituel.
Et du coup, en quoi consistent ces rituels précisément ?
Déjà, il faut que je précise que ces rituels ont une fonction sociale. Donc, ils ont pour vocation de créer une dynamique communautaire et de souder les liens autour d'une cause précise. Et après, par rapport à la forme que ça peut prendre, en fait, ça va carrément dépendre du contexte et de la raison, du coup, pour laquelle on fait le rituel, justement. Donc là, en l'occurrence, on avait commencé par réciter des incantations, puis on a frappé des poings sur le sol. Après, on a entamé des chants et ensuite, on a répété en boucle la phrase « Le Diablo Canyon n'ouvrira jamais ».
Du coup, c'était un peu un moyen de vous auto-persuader, c'est ça ?
Oui, c'était un peu ça. C'était surtout une façon de stimuler encore plus notre détermination. Et pendant le rituel, on a toutes partagé le sentiment que c'était vrai, que la centrale n'ouvrirait jamais, alors qu'on n'était pas du tout en position de force à ce moment-là. Enfin, à peu près 1000 personnes s'étaient faites arrêter, donc on n'était plus assez pour maintenir le blocus, quoi.
Et du coup, comment ça s'est terminé ?
Déjà, après la nuit du rituel, la police avait décidé de nous relâcher, à condition qu'on revienne, bien sûr, pour la mise en examen. Donc nous, on a accepté, et on a pu retourner au rassemblement. Et une fois là-bas, on a eu l'info quelques jours plus tard, il me semble que des erreurs techniques avaient été trouvées dans les plans, et que du coup, le projet était suspendu. Donc finalement, pour nous, quelque part, on avait gagné.
Mais du coup, pour vous, c'est votre rituel qui a fait cette victoire ? Ce serait le pouvoir d'une entité que vous auriez invoqué qui aurait changé la finalité de la lutte, genre.
Alors non, c'est pas vraiment ça. En fait, pour nous, la magie, certes, a bel et bien opéré, mais on n'y voit rien de surnaturel. Enfin, c'est-à-dire que la magie cherche avant tout à opérer des changements sur l'état d'esprit, sur la conscience. Et d'ailleurs, enfin, c'est ce qu'explique l'autrice féministe Starock que vous devez connaître, Louise. Et du coup, pendant ces rassemblements, on a fait plusieurs rituels et on espère vraiment qu'ils ont une influence sur tous les gens qui nous entouraient, que ce soit les ouvriers, les ingénieurs ou même la police. Donc c'était aussi un moyen de tenter de les sensibiliser un peu pour remettre en question ce projet de centrale nucléaire.
Excusez-moi si je parais un peu méprisant, mais ça me fait penser à des agissements de membres de sectes, ce que vous nous racontez là. Enfin, j'ai plus l'impression que c'est un retour dans le passé plutôt qu'une avancée sociale.
Mais c'est justement un retour aux sources qu'on souhaite, en fait. Avec ces rituels-là, on crée du lien entre les gens, et c'est comme ça que, du coup, se construit notre communauté. Mais après, faut pas se leurrer, on parle de rituels depuis tout à l'heure, mais les rituels peuvent prendre plusieurs formes, en fait. Ce qu'on fait, c'est pas forcément différent de se retrouver autour d'un sapin le 25 décembre.
Est-ce que vous pouvez préciser un peu ce que vous entendez quand vous parlez de retour aux sources ?
En fait, en disant ça, je veux dire que nous pensons que la croyance a une place très importante dans la société. Au même titre qu'aujourd'hui, les calendriers suivent encore les fêtes religieuses chrétiennes alors que notre pays est laïque, nous, on diffuse une croyance qui revalorise les femmes et la nature. Donc c'est comme ça qu'on tente de changer les mentalités. Mais notre but, à nous, c'est pas du tout de créer une nouvelle religion.
Moi, en vrai, je suis pas d'accord. Je vois pas pourquoi on associerait plus les femmes à la nature que les hommes.
Ben, en soi, le corps de la femme reste associé au tabou et à la bestialité, entre guillemets. Enfin, je veux dire, notre culture, elle s'est construite autour de ça. Donc nous, on va chercher justement à aller à l'encontre de cette croyance pour revaloriser le féminin. En fait, dans l'histoire, la nature, elle a été discréditée en soi. Donc associer la nature à la femme, ça permettait de la dévaloriser elle aussi, finalement.
Est-ce que vous avez des exemples, peut-être, de cette dévalorisation dans l'histoire ?
Par exemple, moi je pense à la phrase de Baudelaire qui dit que la femme est naturelle, c'est-à-dire abominable. En fait, cette phrase, elle montre bien le lien dévalorisant qui était fait entre les femmes et la nature. Après, dans le contexte actuel, ça me semble pas forcément sensé de réduire les femmes à ce préjugé, parce qu'en fait, c'est pas à notre avantage.
C'est-à-dire un préjugé ?
Souvent on nous dit que les femmes sont liées à la nature. Elles donnent la vie, donc on les associe à la maternité, blablabla. D'ailleurs, au sein du foyer, c'est elles qui sont chargées de la santé. Et c'est pareil au sein de la société, d'ailleurs. Elles occupent principalement des métiers comme sage-femme, aide-soignante, assistante sociale ou encore infirmière. D'ailleurs, d'après l'INSEE, je crois que c'est 9 infirmières sur 10 qui sont des femmes.
Oui, c'est vrai qu'il y a cette idée reçue comme quoi les femmes seraient plus aptes à exercer ce type de métier lié aux soins, car ce serait soi-disant plus naturel pour elles. Alors qu'au final, en éduquant les filles et les garçons différemment, ça perpétue ces idées reçues.
Mais oui, et c'est pour ça que je trouve ça dangereux de revendiquer ces idées, parce qu'en fait, elles participent juste à stigmatiser les femmes.
Mais c'est précisément nous ce qui nous intéresse en tant que spiritualistes. On veut justement se réapproprier ce lien-là, dont vous venez de parler, pardon, qui est fait entre femme et nature et qui, aujourd'hui, comme vous dites, est stigmatisant et dévalorisant, pour le modifier et avec ça, modifier les mentalités.
Ok, mais du coup j'avoue j'ai du mal à comprendre en quoi des rituels chamaniques font avancer la lutte écoféministe.
Ouais, enfin, d'abord, il me semble que chacune lutte comme elle le souhaite, déjà, et surtout de la manière qu'elle juge être la plus efficace. Donc pour nous, ces rituels comme, nous permettent aussi de nous retrouver uniquement entre femmes. Je veux dire, on peut échanger librement, notamment, à propos des violences qu'on peut subir au quotidien, comme par exemple du harcèlement sexuel dans la rue, tout comme au boulot.
Alors en gros, ce que vous voulez dire, c'est que ces rassemblements et ces pratiques spirituelles peuvent avoir une dimension thérapeutique et sociale.
Oui, aussi, tout à fait. En fait, en plus d'apporter aussi beaucoup de soutien à l'échelle individuelle, on peut aussi dire que notre communauté, c'est une force, parce que c'est une arme contre le système, qui lui, pour le coup, est très violent envers les minorités sexuelles.
Mais en fait, nous aussi, on a cette cohésion. Hein. Pour moi, elle est essentielle quand on est une femme dans une société sexiste. Après, nous, on va la créer surtout en manifestant, plutôt qu'en faisant genre des rituels, ce qui me semble assez futile en vrai.
Ouais, en fait, je suis pas étonnée de ce que vous dites. Enfin, je sais que c'est un avis très répandu, mais à notre sens, ils sont pas futiles. Parce qu'on pense que ces croyances peuvent changer les mentalités petit à petit. Donc, encore une fois, je le répète, si on fait des rituels, c'est parce qu'on pense que les croyances visent surtout à influencer l'état d'esprit des gens. Donc, si on valorise la femme et la nature dans l'imaginaire collectif, alors ça suivra, la société suivra. Donc c'est pour ça qu'on revendique ce qu'on nous reproche aujourd'hui, genre les poils, les règles, l'émotivité. Donc d'une part, on assume ce qu'on est et on en est fier, même si les normes sociales rendent ça plus compliqué. Et d'autre part, on lutte pour la cause écologique et pour essayer de sauver les générations futures.
Louise, une réaction pour répondre à ce que vient de nous dire Solène ?
Oui, d'accord. Après les explications de Solène, je peux entendre les arguments qu'elle donne. Mais en fait, je vois juste pas les choses de la même façon. Par exemple, je reconnais l'importance d'une cohésion, mais pour nous, elle n'est pas amenée par un rituel. Je peux la comparer à celle que je ressens lors de manifs. D'ailleurs, je me rappelle, il y a quelque temps, on préparait une manifestation écoféministe. Et du coup, on avait contacté différentes associations pour qu'elles prennent part à la manif, pardon. Et en fait, l'une d'entre elles, elle voulait un cortège non mixte. Mais cette idée, elle a vraiment eu beaucoup de mal à s'imposer. Plusieurs associations étaient contre, parce que pour elles, ça limitait le nombre de personnes présentes. Et du coup, moi, j'étais vraiment pas d'accord avec ça. Je voyais pas l'intérêt de blablater pendant des heures, alors qu'en vrai, on avait plein de choses à faire, et que bah, ce cortège, ça changeait pas grand-chose pour les hommes cisgenres. Le fait qu'il y ait un cortège non mixte, en fait, ça les empêchait pas d'aller dans le reste de la manif. À l'inverse, pour les femmes, donc pour nous, ça représentait énormément. Heureusement, on a fini par mettre tout le monde d'accord, à force d'expliquer qu'on ne détestait pas les hommes, mais qu'on voulait juste protéger les femmes. Et en vrai, je vous assure, cette manif, elle était incroyable. On marchait toutes dans les rues, on criait toutes contre le patriarcat pour défendre nos droits, pour défendre la planète. Et en vrai, j'avais vraiment l'impression qu'on était invincible, que si on criait assez fort, bah en fait, le monde, il allait s'effondrer, quoi. Ce sentiment de force et d'union, ça fait vraiment du bien. Parce que, bon, en vrai, on vit toutes, quasiment tous les jours, des oppressions plus ou moins fortes. Et du coup, bah, on a souvent l'impression d'être seule. Mais moi, pendant cette manif, je me sentais vraiment forte. Parce que on dit qu'on va enfin faire changer les choses, qu'on va pouvoir faire tomber le système, et que bientôt, bah, on n'aura plus besoin de lutter pour nos droits.
Vous dites que les cortèges non mixtes vous permettent de manifester, c'est un homme cisgenre. Mais en fait, c'est quoi un homme cisgenre ?
Bah, littéralement, du coup, un homme cisgenre, c'est donc le terme opposé à une personne transgenre. Donc, c'est une personne qui s'identifie au genre qu'on lui a assigné à la naissance. Donc, pour reprendre ce qu'a dit Louise, par exemple, un mec cisgenre, bah, c'est un homme qui a été assigné homme et qui s'identifie en tant qu'homme.
Il y a quand même un truc qui me dérange. Je trouve ça un petit peu injuste d'être exclu d'un cortège, en fait. Je comprends pas pourquoi je ne pourrais pas aller participer à une manif en allant dans le cortège que je souhaite. Surtout que ça fait moins de monde pour la manifestation.
Mais en fait, le principe d'un cortège non mixte, c'est justement de créer un espace où les expériences personnelles peuvent être partagées sans jugement. Et du coup, je t'invite à lire Christine Delphi, qui a expliqué tout ça dans un article du Monde.
Très bien, mais si moi, en tant qu'homme, je souhaite soutenir les féministes et que je ne peux pas aller aux manifs, comment je fais du coup ?
Bon, après, vous savez, je pense que vous avez plein d'autres façons de soutenir les femmes, autres que d'aller manifester. Déjà en commençant peut-être par se documenter, par remettre en question certains de nos propres comportements ou celui de nos proches, en commençant par ben, nos pères, nos frères et nos amis, quoi.
Exactement. Je pense que la lutte écoféministe, elle doit pas s'arrêter aux manifs, elle doit continuer dans le concret. Rappelons que ces cortèges non mixtes permettent aussi de mettre en avant des populations discriminées et oppressées. D'ailleurs, c'est Robert Bullard qui a travaillé sur l'impact du changement climatique sur ces personnes. Donc, on peut comprendre que ce soit déplacé que des hommes cisgenres blancs, en gros nos oppresseurs, se mettent en avant dans ce genre de situation.
D'ailleurs, il me semble qu'à Bure, la manifestation était non mixte, non ? Je précise pour nos auditeurs et auditrices, à Bure, dans la Meuse, des manifestants se sont regroupés contre l'enfouissement des déchets nucléaires. Il me semble que cette occupation avait un aspect non mixte.
Oui, c'est ça. Il faut savoir que ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des occupations là-bas. Et personnellement, quand j'y étais, les femmes se concentraient surtout sur des ateliers. Par exemple, des concerts, du théâtre, des temps de parole, de partage, afin de pouvoir échanger entre elles. Et bien sûr, elles organisaient aussi la lutte contre l'enfouissement nucléaire. Et pendant ce temps, bah, les hommes, ils s'occupaient des tâches domestiques.
Et c'était donc pour vous une forme d'émancipation collective. J'ai beaucoup lu sur ce mouvement à Bure. À mon avis, c'est vraiment un exemple de lutte contre le système. De votre côté, Solène, est-ce que les manifestations se déroulent de la même manière ?
Ouais, plus ou moins. Après, les activités ne sont peut-être pas exactement les mêmes, mais après, sur le principe, ça reste pareil. C'est-à-dire qu'on se réunit pour échanger, mais aussi surtout pour lutter. Donc ce qui va changer principalement, en fait, c'est que de notre côté, on veut plutôt changer les mœurs, mais pas directement le système.
Mais ça revient pas un peu à la même chose de changer les mœurs et de changer le système ?
Eh bah, pas du tout en fait. C'est un débat dans le féminisme, mais nous, les féministes matérialistes, on veut changer le fonctionnement de la société pour transformer les mentalités. En gros, la domination des femmes, elle est établie aussi bien par l'organisation sociale que politique ou économique. Parce que notre société, en fait, elle est construite sur des bases patriarcales, et si on en change les fondements, et ça dans tous les domaines, bah, ça reviendrait à changer la perception des femmes et du même coup celle de la nature.
Alors que du coup, de notre côté, plutôt chez les spiritualistes, on aspire plutôt à changer les mœurs, changer les pratiques sociales, changer les idées, pour ensuite, dans un second temps, changer la société. Donc en fait, on pense à l'inverse que si on agit plutôt à l'échelle de l'individu, si on part du principe que les individus ensemble forment société, que du coup ça va changer la société finalement dans son ensemble.
Juste avant de poursuivre sur ce débat, nous allons faire une petite pause musicale. La chanson que nous allons écouter est du groupe qui s'appelle Tanchugueiras, formé par trois femmes galiciennes. Pour donner un peu de contexte, la Galice, située au nord de l'Espagne, est considérée comme une terre et un pays de sorcières et de traditions spirituelles. Après cette petite pause musicale, pour reprendre le débat dans des bonnes conditions, est-ce que vous pouvez revenir sur le terme patriarcat ?
Oui, alors le patriarcat, en fait, c'est un système qui maintient une domination masculine sur les femmes, avec l'image cliché de l'homme viril, par exemple. Donc la figure du père de famille qui va ramener de quoi nourrir tout le monde. Et pendant ce temps, sa femme, elle s'occupe des enfants et de la maison. En fait, on ne lui laisse pas le choix. Elle n'est rien sans son mari. Et de fait, c'est parce que l'argent, donne le pouvoir. D'ailleurs, même dans la langue française, c'est le masculin qui prévaut forcément sur le féminin. Du coup, ça montre bien que c'est très ancré dans nos esprits, quoi.
Vous dites que l'argent donne le pouvoir au mari. Du coup, vous faites un lien entre lutte féministe et système économique ?
Oui, parce que dans l'histoire, les femmes ont été prises pour une ressource. Leur condition a été déterminée seulement par leur capacité à assurer une lignée. C'est pour ça que, en fait, un homme devait forcément en faire sa propriété.
Donc, en fait, vous n'avez pas la même méthode, mais finalement, vous avez le même but, que les femmes ne soient plus oppressées. Lors de mes recherches pour l'émission, j'ai vu notre mouvement écoféministe. C'était l'écoféminisme intersectionnel. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ?
Oui, alors l'intersectionnalité, c'est un mouvement qui prend en compte l'accumulation des inégalités. Par exemple, une femme noire va subir plus d'oppression qu'une femme blanche, parce que, en plus de subir du sexisme, elle va aussi subir du racisme. Et si elle est lesbienne, ça fait 3 potentielles oppressions, avec de la lesbophobie en plus. Et du coup, ce principe, il a été développé par Kimberlé Crenshaw, une femme noire, dans les années 2000. Donc, vous voyez, en vrai, c'est récent.
Et aussi, je pense que pour le mouvement intersectionnel, on peut peut-être ajouter que celui-ci, il va plus inclure du coup les personnes LGBT que le féminisme ou l'écoféminisme matérialiste. Enfin, du coup, Louise, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que la limite qui est souvent reprochée au féminisme matérialiste, du coup, c'est d'essentialiser les femmes à leur fonction reproductrice ou sociale, et que, de fait, ça exclut les personnes transgenres.
Oui, oui, je suis bien d'accord avec vous, Solène. C'est ce qu'on peut reprocher aux féministes matérialistes. D'ailleurs, l'intersectionnalité, ça permet aussi une convergence des luttes, parce que plusieurs problématiques se retrouvent dans ce mouvement. Par exemple, la lutte des classes, le féminisme, ou le décolonialisme.
Oui, parce que ces femmes-là entrent en lutte surtout par rapport à leurs conditions de vie, comme femmes, comme prolétaires, comme racisées, etc. Et cette domination se retrouve pas seulement en Occident. Par exemple, en Bolivie, Julieta Paredes, qui est la fondatrice d'un collectif féministe, nous explique que finalement, les traditions sexistes, qu'elles soient occidentales ou indigènes, ont les mêmes visions concernant les tâches des femmes, et elles imposent toutes les deux des rôles genrés, et elles ignorent dans le même temps l'autonomie et les savoirs que les femmes possèdent.
Mais du coup, comment ça va se traduire dans leur vie ?
Eh bien, en fait, on attribue à ces femmes-là le rôle de soignante, que ce soit soignante de la terre, des enfants, des personnes âgées. Donc ce sont souvent elles qui cultivent la terre ou qui vont chercher de l'eau. Donc forcément, ce sont aussi celles qui portent la lutte pour leurs conditions de femmes, mais aussi pour l'environnement, parce que, encore une fois, ce sont ces femmes-là, du coup, qui sont aux premières loges pour constater et, bien sûr, pour subir le dérèglement climatique.
Oui, et ce sont elles aussi qui vont travailler dans les usines pour fabriquer les vêtements vendus dans les grands magasins de fast fashion.
Mais bien sûr, elles vivent directement l'impact des industries sur leur santé et sur l'environnement. J'ai écouté le Parlement européen l'autre fois et c'est 20% de l'eau potable de la planète qui est polluée par les industries textiles.
Et d'ailleurs, ça me rappelle une fois où je me baladais en ville et je suis passé devant une boutique Dior, pardon. Et il y avait des t-shirts en vitrine avec le message « Le futur est féminin » écrit dessus. Et je trouvais ça quand même abusé qu'une grande marque fasse comme si elle soutenait ce genre de lutte, surtout que le t-shirt coûte 650 euros.
Ah ouais, non, mais alors clairement, les marques de luxe comme Dior, c'est l'exemple parfait de marque qui se proclame progressiste, alors qu'on sait que derrière, la production, elle est vraiment scandaleuse et à tous les niveaux, ne serait-ce que déjà au niveau écologique ou éthique.
Mais oui, je m'en souviens même qu'en 2015, Greenpeace avait établi une liste des entreprises qui n'ont pris aucun engagement sur l'arrêt de l'utilisation des produits toxiques, malgré qu'ils aient conscience du fait qu'ils soient polluants. Et Dior faisait partie du lot.
Et on peut même pas dire qu'ils soient clean du côté non plus de la maltraitance animale. Enfin, les marques de luxe sont quand même réputées pour leur production de fourrures véritables et de cuir exotique. Et elles sont souvent dénoncées par l'association L214 qui défend les animaux. Elles ont même fait l'objet d'une émission Cache Investigation, je me rappelle, sur France 2.
Après, faut pas oublier que le problème de ces grandes entreprises, ça reste quand même un problème social. En fait, elles se gênent pas du tout pour sous-traiter. Beaucoup sont accusés de maltraitance envers leurs ouvrières, c'est-à-dire qu'elles font des journées interminables, sans aucune sécurité, avec un salaire misérable.
Ouais, surtout que le prix du t-shirt est vraiment élevé, donc ils doivent se faire une marge énorme sur le dos des travailleuses. En fait, ils se font un maximum de profit en détournant la lutte pour en faire une tendance, mais du coup, ça discrédite la lutte.
Et après, ça c'est le propre du capitalisme. Ils veulent la richesse produite par les travailleuses et les travailleurs.
Ben justement, ce que vous êtes en train de définir, finalement, c'est la récupération de lutte par des grandes entreprises qui, elles, entretiennent notre système capitaliste.
Est-ce que vous pouvez définir ce que c'est un système capitaliste pour nos auditrices ?
Oui. Alors, selon Marx, en tout cas, le capitalisme, c'est un système social, économique et politique dans lequel les bourgeois, enfin, du coup, ceux qui détiennent les capitaux, s'approprient toute la richesse produite par les travailleuses et les travailleurs.
Et du coup, ce même système va venir se servir des symboles forts du mouvement, comme par exemple aujourd'hui la couleur violette qui est clairement devenue un étendard du féminisme, pour fabriquer des produits visés pour un public féminin qui, lui, pour le coup, veut encourager le mouvement. Donc, pour faire court, les marques utilisent un mélange de greenwashing et de purplewashing qu'elles justifient sous couvert de je ne sais quel engagement écologique et féministe, ou voire même des fois écoféministe.
Excusez-moi, mais vous pouvez expliquer ce terme de purple washing, s'il vous plaît ?
Le purple washing, c'est comme le green washing, mais en version féministe. Si vous ne connaissez pas le green washing, c'est quand les marques se donnent une image écologique pour être plus séduisantes. Du coup, avec le féminisme, les marques vont, dans leur publicité, mettre en avant des femmes de différentes tailles, de différentes formes ou de différentes couleurs. Comme ça, toutes les femmes peuvent s'identifier à cette marque, ce qui va leur donner envie d'acheter cette marque plutôt qu'une autre.
Mais le pire, c'est que souvent, c'est pour masquer une réalité qui finalement est tout autre. En fait, ce genre de campagne leur permet de soi-disant redorer leur image, mais pour eux, c'est une façon de faire oublier leur impact environnementaux et sociaux, quoi.
Mais c'est exactement ça. L'entreprise va se la jouer féministe pour séduire leurs clientes, surtout les plus jeunes d'ailleurs, et du coup va leur faire croire que porter ce genre de vêtements signifie participer à la cause, alors qu'en fait c'est tout l'inverse, quoi. Les entreprises n'ont pas du tout les valeurs qu'elles prétendent, et surtout, leur but principal, ça restera toujours faire du profit.
Mais après, il faut faire attention, il faut qu'on nuance. Je veux dire, même si certaines femmes qui consomment ces produits-là, du coup, se revendiquent écoféministes, la majeure partie des militantes sont complètement contre cette production capitaliste, justement.
Donc si j'ai bien compris, il va y avoir des personnes qui vont vouloir acheter des t-shirts avec un message féministe, qui croiront défendre les intérêts des femmes, alors même que la production de ces t-shirts bafoue les droits de nombreuses travailleuses.
Alors pour résumer un peu ce que vous dites, en fait, les grandes marques et les grandes entreprises récupèrent les luttes, elles adaptent leur stratégie de marketing et réussissent à toucher des nouveaux publics en s'adaptant aux mouvements sociaux et à l'opinion publique du moment.
Et elles y arrivent. Personnellement, je vois de plus en plus de publicités de ce genre sur les réseaux sociaux, diffusées par des influenceurs et ensuite reprises dans les médias.
C'est vrai qu'on observe de plus en plus l'écoféminisme dans les réseaux sociaux. Cependant, ça reste sur des plateformes ciblées comme Insta ou TikTok.
En vrai, ces plateformes sont devenues de vrais outils. Ça permet un relais plus rapide des revendications et des événements.
Oui, et ça se voit même aujourd'hui sur la scène politique, lors de débats par exemple. Enfin, peut-être que vous vous rappelez, mais on l'a vu l'année dernière pendant la primaire des écolos avec Sandrine Rousseau notamment, qui a parlé de nombreuses fois d'écoféminisme dans les médias. Et il me semble qu'elle avait parlé assez indirectement du livre de Mona Chollet, et elle a fait des parallèles avec les sorcières et tout ça. Et il y a eu pas mal de réactions, que ce soit du côté des personnes les plus averties, je dirais, donc les écoféministes directement, ou plus globalement aussi dans l'opinion publique.
Oui, mais justement, c'est quelque chose qui peut porter préjudice. En fait, en définissant à sa manière l'écoféminisme, Rousseau va chercher à l'unifier. Et du coup, de fait, elle va exclure une partie des militantes qui ne vont pas se retrouver dans cette définition. Il y a tellement de mouvements autour de ce terme que en fait, la représentativité, elle ne peut être que partielle.
C'est sûr, d'un côté, je suis complètement d'accord avec ça. Enfin, c'est clair, certains mouvements ne seront pas représentés comme il faudrait. Mais il n'empêche que c'est déjà un premier pas vers l'écoute de nos revendications. Enfin, je trouve qu'on ne peut pas nier l'effet positif que ça peut aussi engendrer. Genre, ça permet quand même au mouvement écoféministe de s'étendre dans la sphère publique et du coup de se faire connaître un petit peu davantage.
Oui, surtout que l'on parle très peu de l'écoféminisme dans les médias traditionnels.
Oui, en même temps, je voudrais pas dire, hein, mais normal. Aujourd'hui, les médias sont majoritairement masculins, c'est-à-dire qu'ils sont dirigés par des hommes. Et du coup, forcément, on parle pas de questions féministes.
Ah bon, pourtant, je pensais qu'il y avait une certaine forme d'équité entre les hommes et les femmes journalistes.
Ouais, il y a quasiment une équité. Je crois que ça tourne autour de 47% de femmes journalistes. Après, bien sûr, seulement un tiers d'entre elles sont dirigeantes. Hein, mais d'ailleurs, je me souviens avoir vu que dans l'audiovisuel, l'écart de salaire peut aller jusqu'à 1000 euros en CDI entre les hommes et les femmes. C'est abusé.
Et c'est insupportable. D'ailleurs, c'est un très bon exemple du capitalisme imbriqué au patriarcat. Je pense que l'écoféminisme dans son ensemble, c'est important exactement pour ça. Au final, on a toutes le même but, quoi.
Malheureusement, notre émission va bientôt toucher à sa fin. Je vous propose de faire un petit récap global sur ce qui a été dit. Jules, qu'est-ce que vous en avez tiré ? Ça vous intéressait du coup ?
Beaucoup, oui. Et du coup, maintenant, on connaît la différence entre écoféminisme spiritualiste et matérialiste. Donc les spiritualistes veulent en priorité changer les mentalités pour changer la société dans son ensemble. Là où les matérialistes pensent que c'est en changeant le système global que la perception des femmes va changer. On a aussi parlé des récupérations capitalistes et politiques de ces mouvements, et autant elles peuvent donner de la visibilité à ces mouvements, mais elles peuvent aussi desservir la cause par le phénomène de purple washing, par exemple.
Écoute, ça me semble pas trop mal, hein. Après, aujourd'hui, on a eu le temps de voir l'écoféminisme matérialiste, spiritualiste et intersectionnel. Mais en vrai, il existe beaucoup de courants, donc je vous invite surtout à être curieux et à vous renseigner.
Oui, tout à fait. C'est assez important de rappeler que malgré l'existence de ces plusieurs mouvements, l'écoféminisme, ça reste avant tout lutter contre l'exploitation des femmes et l'exploitation de la nature.
Du coup, je vous remercie beaucoup pour cet échange très enrichissant. Je ferai plus attention à ce que je pourrai trouver dans le commerce et dans les médias.
Juste avant de se quitter, est-ce que vous auriez des ouvrages à conseiller pour nos auditrices ?
Eh bien, moi, je penserais à Jeanne Burgard-Goutal, être écoféministe théorie et pratique aux éditions L'Échappée, sortie en 2020. Et sinon, à tous les livres de Françoise Daubonne, c'est-à-dire Le féminisme ou la mort, publié aux éditions Le Passager clandestin, et Écologie et féminisme, révolution ou mutation, aux éditions Libre et solidaire, pour citer que les plus connus. En fait, je trouve qu'elle explique vraiment très bien le lien qu'on peut faire entre la domination des femmes par les hommes et par le capitalisme.
Et du coup, de mon côté, je pense à l'ouvrage de Mona Chollet dont je parlais tout à l'heure, quand on parlait de récupération politique. Je pense à celui qui s'appelle « Sorcière, la puissance invaincue des femmes », qui, pour le coup, est sorti en 2018 chez l'édition La Découverte. Et aussi, peut-être un ouvrage du coup de l'autrice Starock qu'on a cité, qui s'appelle « The Spiral Dance », qui traite du renouveau de la sorcellerie, et dont la traduction en français est parue l'année dernière, en 2021, chez l'édition Vega Heads.
Eh bien, merci beaucoup pour ces recommandations. C'est désormais la fin de l'émission Vers de Terre, l'émission des étudiants et étudiantes du Master Politique Environnementale et Pratique Sociale. J'espère que vous avez été aussi intéressés que moi par ce sujet. Un grand merci aux participantes ainsi qu'à Jacques Lavergne pour nous avoir donné l'opportunité de faire cette émission. Et enfin, un grand merci à la technique Tiffaine Lemaine et à nos professeurs Aude Sturma et Geoffrey Carrère. On vous rappelle également que l'émission sera disponible sur le site Esprit Occitanie. Au revoir et bon rituel à vous.